Bonjour à tous. Je n'ai pas pu résister au plaisir de lire le dernier Bernard Werber en date, La Diagonale des Reines. Et c'est donc naturellement que je vous propose de découvrir cette nouvelle histoire cette semaine. Je ne vais pas une nouvelle fois vous présenter l'auteur. Vous le connaissez aussi bien que moi à présent. Après les fourmis, les chats et les abeilles, il reprend pour héros de ce livre les humains. Les héroïnes, devrais-je dire, Nicole O'Connor et Monica McIntyre nous entraînent dans une vision très spécifique de la géopolitique. Nicole est australienne, elle ne supporte pas la solitude et en grandissant, elle devient persuadée que la foule, le pouvoir du troupeau humain, est LA solution pour l'avenir. Monica est américaine et elle ne supporte pas ses congénères. C'est la solitude qu'elle préfère et avec les années devient certaine que l'individualité permettra un meilleur lendemain. Mais toutes les deux sont passionnées par les échecs. Chacune de leur côté développe leur stratégie et deviennent des championnes dans leur catégorie. Elles en arrivent à se rencontrer lors de concours et à s'affronter. Nicole déploie ses pions face à Monica qui se fait battre à plate couture puisque cette dernière ne trouve pas de faille pour jouer son jeu. Âgée de 12 ans, la perdante ne gère pas ses émotions et saute à la gorge de son adversaire tentant de l'étrangler. Il s'en faut de peu pour que Nicole s'en sorte indemne, mais avec une rancœur d'une ampleur difficilement qualifiable. Les années passent, les études aussi, et le jour de leurs 18 ans, elle se retrouve face à face devant un échiquier pour un nouveau championnat. Cette fois, c'est Monica qui l'emporte. Nicole quitte le podium la tête haute, mais depuis sa chambre d'hôtel, elle organise une alerte à la bombe qui entraîne un tel mouvement de panique que la foule piétine Monica et sa mère. Bientôt, elle est soulevée par les personnes qui l'entourent. Ses pieds ne touchent plus le sol. « Je ne peux plus contrôler ma direction. » Elle est séparée de sa mère qui, elle aussi, est emportée, mais dans la direction opposée. « Maman !» Monica commence à avoir des difficultés à respirer et la pression ne fait qu'augmenter. Les cris de plus en plus forts participent à accroître la panique générale. La pression augmente. « Je vis un cauchemar !» Monica perd le son avant de perdre l'image. « Maman !» Un voile opaque tombe sur les yeux argentés de la jeune fille. Elle se sent défaillir et elle perd connaissance. Quand Monica ouvre enfin les yeux, la première chose qu'elle distingue, c'est un visage masculin qui respire fort. Elle prend conscience qu'elle est dans un lit avec des draps qui la compressent. Ça y est, elle a repris connaissance. Une jeune infirmière l'observe avec inquiétude. Le plafond est blanc, les murs sont blancs. Je suis dans une chambre d'hôpital. En un instant, elle se rappelle qui elle est et ce qu'il s'est passé quelques secondes avant qu'elle ne perde connaissance. L'alerte à la bombe, l'affolement, les gens qui se précipitent vers la sortie tous ensemble, tous ces gens qui me poussent, mes pieds qui ne touchent plus le sol, le moment où je suis emportée, maman qui a peur, la panique, les cris, et puis plus rien. Vous m'entendez, mademoiselle McIntyre ? Elle cligne des yeux et esquisse un mouvement de tête. Vous vous en êtes bien tirée, seulement quelques ecchymoses et des égratignures. Monica tente de se relever sur ses coudes. Mais cela nécessite un énorme effort. « Rassurez-vous, » dit le médecin. « Me rassurer ? Pourquoi ai-je besoin d'être rassurée ? Tout va bien. Votre perte de connaissance est avant tout liée à la crise d'angoisse provoquée par la foule. Comment vous sentez-vous maintenant ? Mais pourquoi tout ce cérémonial ? » Le médecin se tortille, le regard fuyant, puis, après un petit soupir, dit dans un murmure. « Désolé. » « Désolé de quoi ?» « Je suis vraiment désolée, je n'ai rien pu faire. »« De quoi il me parle ?»« Votre mère ? Que lui est-il arrivé ?»« Elle a chuté et a été piétinée. Elle n'a pas survécu à ses blessures. »« Non, ce n'est pas possible, non, c'est faux, ce n'est pas arrivé !»« Nous n'avons rien pu faire. » Monica se dégage les draps, bondit sur le sol, court hors de sa chambre et casse tout sur son passage en hurlant jusqu'à ce que les infirmiers parviennent à la maîtriser et à lui faire une piqûre de calmant. L'avion, en provenance de Londres, atterrit à l'aéroport de Sydney. Rupert O'Connor vient accueillir sa fille Nicole dans sa Rolls-Royce rouge. Il l'embrasse et lui prend ses bagages. Elle s'installe dans la luxueuse voiture. Alors qu'il roule vers le ranch, il soupire. « J'ai été vraiment inquiet pour toi avec cette terrible bousculade de l'hôtel Southampton. »« Je suis là et tout va bien. » Il faut quand même que je t'avoue quelque chose. Je t'ai parlé de nos origines irlandaises, de la famine qui a décimé notre peuple, de notre ancêtre qui a tué des Anglais et qui a fondé notre dynastie, ici, en Australie. Je t'ai parlé de mon soutien à certains groupes, mais je peux maintenant te l'avouer. C'est surtout l'IRA que je soutiens et que je finance. Et quand j'ai appris cet incident, j'ai eu peur que ce soit mes propres amis qui soient la cause de cette alerte à l'attentat. C'est intéressant, papa. Peux-tu m'expliquer plus précisément comment tu agis ? Alors, sur le chemin qui mène au ranch, Rupert explique le circuit de financement qui lui permet, grâce à des sociétés écrans, de financer, en toute discrétion, ce qui est considéré par la plupart des nations comme un groupe terroriste. C'est grâce à son père que les membres de l'IRA ont un armement moderne. C'est grâce à lui aussi qu'ils peuvent organiser des actions efficaces contre les Anglais. Forcément, un jour, je disparaîtrai et ce sera toi qui reprendras le ranch. Je souhaiterais aussi que tu poursuives cette activité parallèle au nom du martyr de nos ancêtres. Le temps s'écoule. Les deux jeunes femmes reprennent leur vie en main. Monica se relève doucement de sa dépression faisant suite au décès de sa mère et vit isolée du monde. Nicole rencontre le chef de l'IRA et peu à peu prend les rênes de l'organisation, fomentant dans l'anonymat des mouvements de foule afin d'atteindre sa cible. Depuis le dernier championnat d'échecs, Monica ne rêve que de venger la mort de sa mère et Nicole devient son obsession. C'est en rencontrant la directrice de la CIA qu'elle met au point sa vengeance pour détruire sa plus grande ennemie. La traquant comme un gibier, elle pousse Nicole dans ses retranchements et amène cette dernière à intégrer le KGB. Chacune, dans leur organisation gouvernementale, n'ont de cesse de chercher comment tuer l'autre. C'est arrivé à un âge très avancé que Nicole retrouve Monica et lui intime un dernier face-à-face, une toute dernière partie d'échecs qui entraînera la mort de la perdante. Derrière ces lignes couchées par Werber dans la diagonale des rênes, il y a une réflexion profonde sur la puissance de la foule face à celle de l'individu. La foule fait peur, dit-il, et si elle fait peur, cela vaut le coup de tenter de comprendre pourquoi.